Nos invités, Nelson Montfort, vous êtes journaliste sportif à France Télévisions, Manuel Tissier, grand reporter au service des sports de France Télé également, et Corinne Boulou, journaliste consultante pour France Télé. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, plus de Français à Roland-Garros. Et hier, la défaite du dernier Français s'est terminée dans l'aigreur, puisque le vainqueur, le tombeur du Français, l'Américain Taylor Fritz, a été copieusement sifflé. Voilà, on revoit la balle de match. Alors, il provoque lui-même le public. Et les sifflets ont continué au point que Marion Bartoli était bien en peine de pouvoir réaliser son interview qui a été écourtée. Du coup, je vous propose de voir comment l'ambiance à ce moment-là.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. On va pas y arriver. What kind of adjustment you had to do in your match to win this one?
Sorry, I actually can't hear you.
Voilà, il ne pouvait pas entendre. Corinne Boulou, c'est rare de voir ainsi un vainqueur siffler à Roland-Garros.
Ah ben là, c'est la première fois qu'un entretien comme ça. Il y a trois questions seulement après les matchs qui ne se déroulent pas comme ça. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça à ce point-là. C'était face au dernier Français en lice. Alors, il a un petit peu provoqué aussi la réaction du public, mais c'est vrai que c'est rare. Après, on était cette année, à chaque fois qu'il y a eu des Français, comme le public voulait les pousser, on a eu des ambiances de ce qu'on appelle de Coupe Davis. C'est-à-dire que très chauvin, et donc, ça pousse à l'excès certains du public. Après, ça, tout ne s'est pas passé comme ça, heureusement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage.
Nelson Montfort, vous avez trouvé ça désolant. C'est pas Roland Garros de siffler ainsi un vainqueur?
Non, c'est exactement. La réponse est dans la question. On en parlait avec Manu juste avant d'arriver sur ce plateau. C'est vrai que c'est pas Roland Garros. En tout cas, c'est pas l'image que nous faisons de ce tournoi mythique et de ce tournoi, j'allais dire, fair play. Alors, c'est peut-être un mot un petit peu suranné aujourd'hui, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas ce qu'on vient de voir, je ne sais pas. En plus, Taylor Fritz n'est pas un joueur sympathique. C'est pas un joueur qui va susciter une controverse particulière. Non, je trouve ça vraiment navrant.
Après, c'est pas le public du soir d'abord? On était donc un public plus jeune, plus engagé. Non, moins après, corporate, on va dire, parce que Roland Garros, il y en a pas mal qui y vont et qui savent pas trop qui y regardent, quoi.
Ouais, après, faut relativiser un petit peu, Kyrgios, quand il joue en Australie, quand des Américains jouent à l'US Open, il y a aussi eu des grosses ambiances très hostiles pour les adversaires des garçons de l'étape. C'est pas complètement nouveau. Mais c'est vrai que hier, la frustration de l'élimination du dernier Français a joué un petit peu. La veille, Gaël Monfils avait été soutenu de manière exceptionnelle par les Français et par le cours Châtrier, et ça avait donné un exploit. Donc là, il y avait cette frustration qui s'est mêlée, plus la petite provocation de Fritz.
Il célébrait comme une manière de joueur de foot un peu.
Et puis pour dire au public, regardez, malgré vos sifflets, j'ai sorti votre Français. Donc il y avait il s'est créé donc un état d'esprit et un rendez-vous très conflictuel. Mais où je suis d'accord avec Nelson, c'est vrai que là, on a atteint un point qui reflète aussi un peu une tension vis-à-vis des joueurs de tennis et une tension un peu qu'on ressent aussi dans la société.
Corinne Boulou, on espère que lors du prochain match, il ne sera pas à nouveau sifflé, que le public de Roland-Garros n'est pas pris en grippe cet Américain.
Non, je pense, enfin on verra bien, mais je pense franchement que c'était vraiment ponctuel, que c'était sur ce match-là. Parce qu'encore une fois, Taylor Fritz est un garçon qui ne fait pas de bruit, comme Nick Kyrgios, qui lui peut être provocateur. Ouais. Là, je pense que lui aussi, il était frustré que le public ne l'applaudisse pas. En plus, Arthur Rinnertest a été applaudi par le public, mais il a remercié aussi le public, ce qui est rare de voir un perdant applaudir son public. Il est sorti aussi sous les applaudissements. Moi, j'ai vu Taylor Fritz s'entraîner avec Gaël Monfils, ça c'est quelques jours avant, et ça s'est super bien passé.
Donc, alors, vous l'avez dit, hier soir, il y avait beaucoup de frustration, puisqu'il était aux alentours de 23h30. Le dernier Français était éliminé de Roland-Garros, après le forfait de Monfils, après la défaite de Caroline Garcia, mais aussi de Lucas Pouille, une Bérésina française, sujet d'Amaël Brignoli.
Caroline Garcia.
Elle était le plus grand espoir tricolore. Sur le court central, Caroline Garcia s'est battue jusqu'au bout. la numéro 5 mondiale a sauvé 8 balles de match avant de s'incliner face à la Russe Anna Binkova. Quelques heures plus tard, même sentence pour Lucas Pouille. Le Français voit son aventure stoppée net en 3-7 par le 14e mondial. Puis c'est au tour de Corentin Moutet, d'Hugo Humbert et de Lucas Vanache de s'incliner au second tour.
Journée noire pour le tennis français, malheureusement.
Journée noire clôturée par l'élimination de Léolia Jean-Jean.
Nelson Monfort, est-ce qu'on peut dire que de tout cela, le plus navrant, c'est la défaite de Caroline Garcia, numéro 5 mondiale?
Ça fait maintenant, je crois, 5 ans que Caroline Garcia n'a pas réussi à franchir le cap du deuxième tour à Roland-Garros. Donc là, je veux dire, ce n'est plus un accident. C'est presque... Oui, pourquoi est-ce que Garcia n'y arrive plus? Elle y arrive dans beaucoup d'autres tournois. Rappelons qu'elle a quand même remporté le Masters hein, l'année dernière, qui est, on va dire, le 5e tournoi au monde. Elle était en demi-finale de Flushing Meadows, me semble-t-il. Mm-hmm. Mais en France, sur terre battue. Mais je pense que c'est plus en France, à Paris, devant son public. Elle n'y arrive tout simplement pas.
Attends, Nadal... public, en général, on dit que jouer à domicile... C'est un atout. Vous avez l'air de sous-entendre que c'est un handicap.
Maintenant, il faut quand même tirer les conclusions. Pas pour les Français.
C'est un atout dans les sports
collectifs. Pas pour les Français. Pas pour les Français. Je veux dire, aujourd'hui, écoutez, je prends l'exemple. Il y a un match, et d'ailleurs, bon, enfin, là, on parle de Caroline Garcia, mais très brièvement, il y a un match où vraiment, un Français est vraiment passé à côté d'être encore en lice aujourd'hui, c'est Benoît Paire, qui, au 5e set, dans son match contre Cameron Norrie, Grande-Bretagne, mène 4-2 dans le 5e set devant un public de Suzanne Langlais en effervescence. Si Paire avait gagné ce match, il ne peut pas le perdre. 4-2 au 5e set devant son public, il aurait affronté Pouille au tour suivant, il l'aurait battu et il serait aujourd'hui en 8e de finale, donc en 16e de finale, pardon. Ouais. Là, il est vraiment passé à côté et on ne parlerait pas de ce Waterloo, de cette. Donc voilà, il faut vraiment saisir les occasions, saisir les. Non, moi je veux dire de Trafalgar, puisque c'est mon prénom. Mais voilà, il faut saisir les occasions quand elles se présentent. Il semble que les tennismen et women françaises, eux, n'y arrivent pas.
Manuel Tissier, votre regard sur. Ça a été la plus grosse déception, vous, de voir Caroline Garcia éliminée au deuxième tour alors qu'elle est si forte à l'étranger.
Oui, mais c'est pas tout à fait une surprise non plus, parce que Caroline Garcia fonctionne par phase aussi. C'est vrai qu'elle a changé d'entraîneur 2 fois là. Elle est revenue avec son ancien entraîneur, donc elle est dans une forme d'instabilité aussi sportive dans son encadrement technique. La terre battue et l'ensemble du, c'est pas forcément sa surface. C'est une attaquante, hein. C'est quelqu'un qui rentre dans la balle et là, elle a eu plus de difficultés, semble-t-il, techniques pour retrouver les sensations qu'elle a eues effectivement l'an dernier, à l'automne dernier, au Masters et à Flushing Meadows. Et Caroline Garcia, bah, elle a été peut-être aussi un petit peu contrainte par ce public qui amène une grosse pression. Et c'est vrai que dans les sports collectifs, c'est un avantage, les supporters. Mais quand on est tout seul face aux attentes, ça travaille dans la tête, ça gamberge. Et c'est beaucoup plus difficile de libérer ses coups et d'avoir la légèreté, le relâchement nécessaire à la performance.
C'est, d'ailleurs, Corinne Boulou, c'est ce qu'elle a dit. Je ne me suis pas libéré, comme si c'était un sport autant mental que physique, le tennis. Alors qu'au foot, il y a un peu de mental aussi. On a l'impression que c'est spécialement mental au tennis.
Mais évidemment, c'est très mental. Et là, pour Roland-Garros, pour les Français, et notamment pour Caroline, ça l'est. Manuel l'a très bien expliqué. Il y a une charge mentale qui est très importante sur ses épaules. C'était la seule tête de série, hein, parmi les Français, les hommes ou les femmes. Aucune tête de série chez les hommes. Elle était la seule, en tant qu'en plus 5e mondiale. Il n'y a que 3 top 10 d'ailleurs qui ont été éliminés avant le 3e tour. Elle en fait partie. Et c'est vrai qu'elle est arrivée ici, forcément avec... Alors déjà, elle avait peu de résultats. Pas autant en tout cas que ce qu'elle a produit à l'automne jusqu'à la fin de l'année en remportant ce Masters, où elles sont très peu de Françaises hein, à l'avoir remporté. Amélie Mauresmo et Marie Pierce, c'est quand même des grands noms. Donc elle en fait partie, Caroline. Mais c'est vrai que pour se libérer et se lâcher à Roland-Garros, là, c'était trop compliqué. Peut-être qu'elle y arrivera, peut-être qu'elle n'y arrivera pas. On verra bien si elle peut, comme Marion, atteindre une demi-finale, Marion Bartoli, ou Marie Pierce aller gagner un grand chelem.
Manuel Tissier, au passage, j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'on ne peut pas adresser un petit coup de chapeau au tennis? On parle beaucoup de la parité dans le sport. On se lamente de voir que la Coupe du monde de football féminine n'a toujours pas de diffuseur. Dans le tennis, on suit avec autant d'intérêt. D'ailleurs, il y a une parité financière, je crois.
Absolument.
Est-ce qu'on peut dire que le tennis, de ce point de vue, en termes de, dans la parité, est en avance sur les autres sports et que, est-ce que, je ne sais pas si ça s'explique.
En tout cas, le vainqueur et la vainqueur de Roland-Garros cette année, comme depuis quelques années, touchera 2 300 000 euros. Pourtant, ils n'auront pas passé autant de temps sur le court. Au taux horaire, c'est pas le même. Et il y a encore quelques personnes qui pointent un petit peu cette inégalité, entre guillemets, en disant les femmes passent moins de temps sur le court, parce que c'est des matchs en 2-7 gagnants, il faut le rappeler, alors que c'est en 3-7 gagnants pour les hommes dans les tournois du Grand Chelem. Mais c'est vrai que le tennis a fait un petit peu sa mue de ce côté-là depuis maintenant plusieurs années. Et après, ce sont pas aussi, c'est des sponsors aussi chez les femmes qui peuvent avoir autant d'argent. Alors que dans le football, les femmes ont beaucoup moins d'argent que les hommes. C'est une très grosse différence.
Dernière victoire française à Roland-Garros, c'est Marie Pierce.
2000.
En 2000. Et dernière victoire chez les hommes, c'était il y a 40 ans.
Oui.
Yannick
Ça paraît incroyable.
1983. Yannick Noah qui est revenu sur scène, mais en tant que chanteur cette fois à Roland-Garros, pour célébrer les 40 ans de sa victoire, de la dernière victoire d'un homme à Roland-Garros, un Français. Et vous allez voir, à la guitare, il y avait un invité de marque que vous allez, qu'on va reconnaître. Enfin, souvenir, Jean-Christophe Batteria, Antoine Schussweil et Alexis Fischer.
Ans après, il est de retour sur le central de Roland-Garros, théâtre de son exploit, pour un concert inédit.
Attention les secousses. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour mon collègue, mon ami, mon frère?
Les deux adversaires de la finale sont cette fois du même côté.
Mats Wilander.
Complice, partenaire. Wilander à la guitare vient partager à nouveau les bravos avec Noah. Cela signifie bien plus qu'un instant de nostalgie.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes amis jusqu'au dernier jour de nos vies.
Notre blagounette entre nous, c'est que les gens le connaissent ici parce qu'il a perdu contre moi alors qu'il a gagné 3 fois. Quoi.
Ce 5 juin 83, Wilander est tenant du titre. Il a 18 ans, il est favori. Mais Noah excelle jusqu'à l'explosion de joie de la balle de match. Depuis 40 ans, l'image de l'étreinte avec son père, star du football des années 60, sous les yeux de sa mère, tourne en boucle dans nos souvenirs et sur nos écrans. Mais c'est surtout la personnalité attachante de Noah qui a fait entrer cet instant dans la légende du tournoi. Pour le dernier vainqueur français, avoir rempli à nouveau le central en tant que musicien est une seconde victoire à Roland-Garros.
Bon, Nelson Montfort est... C'est la faute à Patch. On a l'impression que depuis Noah, ça ne cesse de s'effilocher. En tous les cas, que les hommes sont de moins en moins performants à Roland-Garros.
Le problème, c'est que c'est à Roland-Garros, parce qu'il faut quand même reconnaître que dans d'autres tournois, les joueurs, ils parviennent assez bien. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Je pense qu'il y a, oui, c'était une malédiction. Oui, il y a une forme de malédiction. Il y a une forme de malédiction qui quelque part ne s'explique, ce que disait Corinne, que par le mental. Ça me paraît impossible d'expliquer ça autrement. D'ailleurs, Tony Nadal, que tout le monde connaît, ex-entraîneur de Rafa et son oncle et un peu son père de substitution, le dit. Il y a rien qui sépare, je le cite, rien ne sépare les joueurs français des joueurs espagnols. Si ce n'est ce qui se passe ici. Il faut quand même reconnaître que Richard Gasquet, Yannick Noé et Raphaël Nadal ont à peu près le même âge. La seule fois où Richard Gasquet a battu Raphaël Nadal, c'est quand ils avaient 14 ans. Depuis, je crois que c'est ça, depuis tous les matchs, je crois qu'ils sont venus une vingtaine de fois, tous ont été en faveur de... Bon, vous me direz que c'est Raphaël Nadal. Mais voilà, les joueurs espagnols sont
battu,
là.
Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont battu.
Le tennis italien qui a connu des creux est de nouveau là. Il y a
des phases.
Comment ?
Il y a des cycles et des phases.
Il y a nous et le tennis allemand qui ne vont pas. Oui, c'est exact. Le tennis allemand ne va, va moyennement, je veux dire. Et nous, malheureusement, on peut pas. Enfin, c'est moyen. Oui,
Emmanuel Tissier, est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que là, en plus, on apprend. Je veux dire, on est chez nous, à domicile. Les petits Français apprennent à jouer. Alors, Corinne Boulou, sur la terre battue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que on jouait beaucoup au tennis dans les années 80, donc dans l'eau, il y en avait quelques-uns qui sortaient, et que la pratique du tennis s'est un peu perdue, et donc Bah, forcément, il y en a moins qui émergent.
Effectivement, il y a peut-être moins de plus jeunes licenciés. D'ailleurs, la FFT cherche à rajeunir justement ce public qui vient vers le tennis. Mais je crois aussi que les Français petits jouent quasiment jamais sur terre battue. Ils ne grandissent plus sur terre battue. Il n'y en a pas autant qu'il faudrait... Autant qu'en Espagne, par exemple, pour des raisons aussi climatiques, hein, parce que c'est compliqué d'entretenir une terre battue. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on oublie quand même qu'à Roland-Garros, on a eu, et chez les femmes, on l'a dit, mais chez les hommes, on a eu quand même 3 demi-finales. Et puis un finaliste depuis
Lecomte,
Henri Lecomte.
C'était il y a 30
oui,
ans.
Oui, mais alors, pour revenir à plus récent, Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils ont fait des demi-finales à Roland-Garros, sauf que ils sont tombés sur une génération incroyable. Nadal, Federer et Djokovic, même si Federer sur terre battue, il s'est imposé qu'une seule fois à Roland-Garros, mais quand même, c'était compliqué. Un Nadal mangeait tout sur terre battue, il laissait que des miettes, et Djokovic, même chose. Donc, modérons un peu la situation du tennis français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le creux de la vague, côté masculin comme féminin,
Caroline Garcia. Ouais.
Et on peut le mettre en parallèle aussi avec l'impossibilité longtemps pour les tennismen britanniques de gagner Wimbledon.
Et, oui.
Ouais. Et donc ça aussi, ça a été un problème. Ce n'est pas que les Français, mais c'est vrai que le réservoir français est quand même plus important aussi que le réservoir anglais en termes de tennis.
Alors justement, est-ce que ça n'entame pas, vous parlez de Wimbledon, les Anglais disent oui, nous on a le plus beau tournoi au monde, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'Anglais. Mais ça n'empêche pas, on attire les meilleurs du monde. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour Roland-Garros? Est-ce que ça entame, malgré tout, la popularité de ce tournoi, le fait qu'à domicile, les Français, voyant qu'il n'y a plus de Français, soutiennent moins ou sont moins intéressés par Roland-Garros?
Non, tous les chiffres montrent le contraire même. Il y a un intérêt croissant pour Roland-Garros. Les chiffres d'audience ont explosé, c'est record sur record. La fréquentation augmente tous les ans avec les travaux qui ont été faits à Roland-Garros, l'instauration des sessions nocturnes. Je discutais à Roland-Garros avec un cadre qui est là depuis une trentaine d'années, qui disait « Nous, on était contents à l'époque quand il y avait 250 000 personnes sur la quinzaine. Cette année, on sera entre 650 et 700 000 personnes avec le renouvellement des infrastructures. » Donc Roland-Garros est devenu un phare du sport mondial et attire autant à la fois les joueurs que les sponsors, que les spectateurs. Et il y a avec aussi la transformation des horaires et des nocturnes, des gros marchés qui sont de plus en plus présents, comme le marché américain ou sud-américain.
D'ailleurs, Nelson Monfort, ce sont les chiffres de Roland-Garros, mais Roland-Garros affirme être le tournoi du Grand Chelem le plus regardé, le plus visionné au monde, à égalité, mais juste devant Wimbledon et loin devant l'US Open et l'Australie. Est-ce qu'il a un rayonnement mondial? Est-ce que, je veux dire, Roland-Garros, il rayonne sur le tennis mondial à la fois en France et dans le monde entier? Est-ce chauvin de dire ça?
C'est difficile, évidemment, de vérifier les chiffres s'il y a un peu plus de téléspectateurs qui regardent la Wimbledon que Roland-Garros. Ce qui est sûr, en tout cas, une chose, c'est que je pense que et ce que disait Manuel est tout à fait exact. Je pense que le tournoi est plus important que les joueurs. Le tournoi est plus important que les nationalités. Donc le fait qu'il n'y ait plus de Français au jour 5 ne va en aucun cas affecter la fréquentation, d'autant plus que toutes les places sont réservées à l'avance. Donc ça n'affectera pas. Alors maintenant, est-ce que c'est le tournoi le plus... Je pense qu'avec Wimbledon, allez, on est premier ex aequo. On va dire
pour
ça.
Pour un joueur, ne pas gagner Roland-Garros, c'est une tâche... un grand joueur... Se doit d'avoir gagné Roland-Garros.
Mais dans ce cas, c'est une tâche sur beaucoup de joueurs.
On n'est pas un très grand joueur si on n'a pas gagné Roland-Garros.
J'aime bien cette formule. Par exemple, il y a un joueur que je pense tous autour de cette table que nous aimons énormément, c'est Stefan Edberg, le Suédois, qui a été numéro 1 mondial, qui était en finale de Roland-Garros, qui a gagné 6 tournois du Grand Chelem, 2-2-2. C'est facile avec l'Australie, US Open et Wimbledon. Je pense qu'il restera comme un des très grands joueurs de l'histoire du tennis, de même que Pete Sampras.
Et ils n'ont pas gagné Roland-Garros.
Non plus. Voilà. J'ai accès à deux exemples-là. Prouve qu'on peut être, je pense, un très grand joueur sans avoir gagné.
John McEnroe.
John McEnroe.
Enfin, vous êtes capable de les citer.
Finale crève-cœur. Finale crève-cœur contre Ivan Lendl. Lendl qui lui-même n'a jamais gagné Wimbledon, ou Borg qui n'a jamais gagné Flushing Meadow. Non, je pense que.
Et à l'inverse, Noah serait oublié s'il n'avait pas gagné Roland-Garros.
Oublié peut-être pas,
parce que oui, il a une personnalité, un chanteur et tout. Mais enfin, disons que ça lui a beaucoup apporté. Je pense même qu'il aurait pu le gagner plusieurs fois, mais bon, il est parti vers d'autres.
Question sur les travaux d'agrandissement. On a fait un toit pour se protéger de la pluie. Hier, je regardais le match une Française a perdu, bah, comme d'habitude.
Ce qui est un pléonasme.
Diane Berry. Et le match a été stoppé un moment parce qu'il y avait dans les spectateurs une personne qui a fait un malaise. Mmh. Il faisait un malaise parce qu'en fait, on est en plein soleil et il fait très chaud.
Il y a eu plusieurs malaises. Hein.
Oui, voilà. Et est-ce qu'avec le réchauffement climatique, les 40 degrés qu'il doit faire dans les terrains. Et la question, est-ce qu'elle ne se pose pas de façon plus aiguë en Australie, où on joue en janvier, c'est-à-dire en plein été austral, où il y a les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Est-ce que c'est une question à laquelle commencent à réfléchir les organisateurs de tournois?
Alors, je pense qu'ils ont réfléchi dans l'autre sens, mais aujourd'hui, c'est vrai que...
Il fait très chaud.
Oui, non, mais ça vaut pour la chaleur. C'est-à-dire qu'au départ, si les organisateurs mettent un toit sur les plus grands cours, c'est pour se protéger de la pluie et que le tournoi puisse se poursuivre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui...
ça va bientôt être pour faire de l'ombre.
Voilà, exactement. Et ça va être dans l'autre sens. Au départ, c'est quand même pour se protéger de la pluie et que les matchs puissent se dérouler sans problème. D'ailleurs, à Roland-Garros, il y aura un toit sur le Suzanne Lenglen, donc sur le deuxième... Oula, je vous fais tomber votre micro. Sur le deuxième plus grand cours de Roland-Garros, pour l'édition prochaine et pour les Jeux.
C'est vrai que Diane Paris, je la voyais, elle transpirait, elle jouait en plein soleil. Il y a un moment où un match stoppé parce qu'il fait 50 degrés et qu'on ne peut pas jouer, quoi. Non ? La question pourrait se poser.
En Australie, parfois des températures qui sont beaucoup plus importantes que...
Et on peut jouer.
Là, c'est assez rare. Et on joue. Alors après, les matchs sont décalés un petit peu vers le soir, par exemple. Mais on n'en est pas encore à climatiser les stades, par exemple. Qui pourrait être une solution aussi pour...
Comme au Qatar.
pour aller contre le réchauffement climatique. Mais non, ça fait partie des sports où, effectivement, l'environnement météorologique fait partie du jeu également. Le vent, on a vu qu'il y avait du vent. Et il faut savoir lutter avec ces éléments-là. Quoi.
Alors, on a parlé des sifflets contre Taylor Swift. Fritz, pardon.
C'est une chanteuse de Taylor Swift.
C'est pour ça que la confusion est possible.
Ouais, ils sont tous les deux américains.
Exactement. Hein.
L'autre sujet qui fait polémique à Roland-Garros, c'est bien sûr l'attitude des joueurs face à la guerre en Ukraine. Et puis également... Ce geste qui a fait polémique a été condamné de Djokovic sur le Kosovo et la Serbie. Je vous propose, quand la politique s'invite sur les cours de Roland-Garros, c'est un sujet de Jenny Meyer.
Lundi après son match, la joueuse ukrainienne Marta Kosiuk, en bleu sur les images, refuse de serrer la main de son adversaire biélorusse sous les sifflets du public. Quelques heures plus tard, c'est Novak Djokovic qui crée la polémique. Sur l'objectif de la caméra de Roland-Garros, le message du joueur serbe est politique. Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Stop à la violence, en référence aux récents affrontements. Le règlement du tournoi est pourtant clair. Il est interdit d'afficher des opinions politiques. Le joueur assume.
Je ne sais pas ce qui va se passer, si je vais avoir une amende. Mais je n'ai aucun regret et je le referai car mon avis est clair. Je suis contre la guerre et je l'ai toujours exprimé publiquement.
Une prise de position inappropriée, selon la ministre des Sports.
C'est un message qui est qui est militant, qui est très politique. Et je pense qu'il ne faut surtout pas a fortiori dans les circonstances actuelles, se lancer là-dedans et qu'il ne faut pas que ça se reproduise.
Corinne Boulou, c'est vrai que Djokovic, il a toujours été un peu borderline. On se souvient qu'il était anti-vax, hein.
Oui, ça a été l'un des trois joueurs du top 100, avec le Français Pierre-Hugues Herbert aussi d'ailleurs, qui avait refusé de se vacciner, ce qui lui a posé encore cette année d'ailleurs des soucis parce qu'il n'a pas pu participer à la tournée américaine après l'Open d'Australie. L'année dernière, il n'a pas pu participer à l'US Open, mais voilà, il est resté fidèle à ses convictions et en Serbie. Il pourrait devenir président de la République. Hein.
Ah, c'est une vedette. Il dit « je me sacrifie pour mon pays » avec ce genre de phrase.
Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont... Il a son cœur chevillé à sa nation, la Serbie, comme beaucoup de Serbes hein, d'ailleurs. Et là, il sait très bien qu'en tant qu'ancien numéro un mondial, aujourd'hui numéro 3 mondial, on va pas lui chercher des noises hein, pour ce qu'il a dit, ce qu'il s'est exprimé sur le Kosovo.
Hein. Ce que vient de dire Corinne, c'est amusant, parce que j'en ai parlé avec le très grand violoniste serbe Nemanja Radulovic, qui est un peu le deuxième serbe le plus connu après Novak. Mm. Il a dit exactement ce que vous venez de dire, que Djokovic pourrait, et selon lui, peut-être même pourra devenir chef de l'État en Serbie. Ah, c'est pas du tout impossible. Aujourd'hui, les joueurs de tennis, enfin, même les sportifs de façon générale, sont devenus des consciences, quelque part, qui quelquefois les dépassent un petit peu. Et là, nous sommes en plein dedans.
Alors, sur le traitement des joueurs infligés à la Russie, on sent qu'il y a un petit malaise. L'autre jour, là, lors de la finale, la jeune russe de 16 ans, c'était face à, je ne sais plus quelle française. Bref, c'était une russe. Alors, on se demandait si le public allait applaudir. Et puis, à la fin, on était un peu gênés parce que, on ne mentionne pas le fait qu'elle est russe. En même temps, c'est une petite fille de 16 ans, elle n'a rien à voir avec Poutine. Est-ce que c'est compliqué à gérer ça, ce traitement qu'on doit et qu'on se doit d'infliger aux joueurs russes?
Ben, on se souvient même que Wimbledon avait quasiment interdit l'an dernier, après le déclenchement de la guerre, la présence des joueurs russes.
On est dans un entre-deux.
C'est effectivement très complexe, parce qu'effectivement, il n'y a pas de drapeau russe. On ne donne pas la nationalité des Biélorusses et des Russes, mais en même temps, ils ont le droit de participer en tant qu'individu. Mais c'est aussi très complexe, parce que la manière dont Vladimir Poutine a instrumentalisé le sport fait qu'il y a une grosse différence. Peut-être que jamais on a instrumentalisé le sport à ce point-là dans un État.
Mais il y a beaucoup de Russes, faut dire, à Roland-Garros. Hein.
Beaucoup de Russes, pas mal de Biélorusses aussi. Sabalenka, qui est une des meilleures joueuses.
Alors d'ailleurs, le public a pris fait et cause pour Sabalenka et contre l'Ukrainienne, qui avait refusé de lui serrer la main. Le sport avant la politique, hein, c'est ça le mantra sur le Roland-Garros.
En tout cas, c'est apparu comme un manque de respect, comme un comportement antisportif. Mais ensuite, c'est vrai que les mots à la fois d'Elina Svitolina, qui est Madame Monfils, qui est une joueuse ukrainienne, et les mots de Kostyuk sont aussi très forts. Ils disent aussi la douleur, la complexité d'avoir sa famille qui est sous les bombes dans une bonne partie de l'Ukraine et d'avoir en face des joueuses et des joueurs qui ne se prononcent pas vraiment pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont aussi des raisons politique interne, parce qu'ils ont peur, ils ont de la famille aussi peut-être en Russie, mais cette ambiguïté-là fait très mal aux joueurs qui doivent, eux, elles, pratiquer leur métier dans ces conditions-là. Quoi.
Est-ce qu'on sait comment ils le vivent, les joueurs russes? Est-ce qu'ils en parlent ou est-ce qu'ils sont très embarrassés? Ils font no comment?
Très peu. Sabalenka a été interrogée après son premier match.
Sabalenka, elle est biélorusse.
Oui, elle est biélorusse. Elle est numéro 2 mondiale. Et elle a été... elle est vainqueur du premier grand chelem de la saison. Et elle a été interrogée justement après son match contre Kostyuk, l'Ukrainienne. Alors, l'Ukrainienne avait annoncé avant son match qu'elle ne serrerait pas la main de son adversaire. Donc, Sabalenka n'a pas été surprise. Mais c'est vrai que elle s'est quand même exprimée sur le fait que oui, personne ne souhaitait ce conflit. Donc elle l'a dit quand même en conférence de presse. Et quand après son deuxième match, sa deuxième victoire, la question à nouveau lui a été reposée, elle lui a dit « j'ai déjà répondu après mon premier match ». Donc effectivement, les questions leur sont posées systématiquement aux Russes ou Biélorusses. Là, on verra comment Elina Svitolina va gérer cette fin de match, parce qu'elle va rencontrer Anna Blinkova, qui a sorti Caroline Garcia. On verra comment elle négocie cela. Elle qui, tout de suite après le conflit, après le début du conflit, a dit « Moi, je ne veux plus participer à des tournois si présence russe ou biélorusse. »
Ah oui.
Bon, elle a été obligée d'adoucir sa position. D'abord, elle revient de maternité, hein, puisqu'elle a eu une petite fille. Mais ensuite, elles ont critiqué la WTA, qui est l'organisme qui régit le circuit féminin mondial, en disant qu'elle ne prenait pas suffisamment de mesures pour les protéger, elles, par rapport justement à ces matchs face aux Russes ou Biélorusses. Mais ça se passe, ça va, dans les vestiaires, on n'est pas là pour voir, mais je pense qu'elle, évidemment,
c'est très individualiste. Connaissent tous ces joueurs, de toute façon, hein. C'est ça. Bien c'est sûr. Un petit milieu, hein, et la politique, c'est pas leur souci, non?
Je pense même qu'ils sont sans doute même capables de dépasser les frontières, c'est le cas de le dire, et sans doute de bien s'entendre, en tout cas de mieux s'entendre qu'on ne le pense. Ce qui me frappe, c'est quand on voit les noms des joueurs, Donc on voit, je ne sais pas, mon fils, France ou autre chose. Et en dessous, un joueur russe ou biélorusse, sa nationalité n'est pas marquée. Et si d'aventure, un russe, ça ne pourrait être que Rublev, gagnait le tournoi, ce qui est après tout petite possibilité, mais c'est pas l'hymne russe qu'on entendrait. On entendrait le concerto pour piano de Tchaïkovski, qui d'ailleurs est un œuvre magnifique, mais qui n'est pas l'hymne russe. Donc voilà, c'est ce qu'ils aiment eu. On est une sorte d'entre-deux. Ouais. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, je sais pas quelle est votre opinion, c'est que le tennis, soit on va au bout d'une décision, même si elle est incohérente. Mais dans ce cas, on interdit tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on interdit les gymnastes, les patineurs? Les patineurs, en plus, les Russes, c'est pas n'importe qui. Sans parler des danseurs, des pianistes, etc. Les arts, là-bas, ça compte beaucoup. Et qu'on autorise les tennismen. Ça, j'aimerais bien comprendre. J'ai vraiment essayé d'essayer de comprendre ça. Et ça, je ne comprends pas. Les seuls sportifs russes qui sont acceptés dans un, ce sont les tennismen.
Est-ce que parce les que exclure les Russes?
Les athlètes d'athlétisme sont interdits à un an des JO. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un autour de cette
table... Alors, il avait fait Wimbledon, il l'avait fait. Ils avaient interdit les...
Oui, l'année dernière. Mais là, pas cette année.
Oui, pas cette année.
Aussi, Nelson.
L'année dernière, oui, pas cette année, non.
Nelson, il n'y a pas d'unité dans les organisations sportives. Il y a une mosaïque de décideurs. On décide un petit peu partout. Donc, c'est très difficile d'avoir une seule décision.
Et ils sont très forts, les Russes. C'est vrai que si...
Dans presque tous les sports.
Tiens, ils sont très forts, les Russes. Et si on parlait du dopage? Pourquoi je dis ça? La dernière...
ils sont très forts, là-dedans aussi.
Cette année, non, parce que la Roumaine... justement, on peut se demander pourquoi. Simona Halep, qui a gagné Roland-Garros en 2018. Je dis ça parce que les Russes ont souvent des affaires de dopage. On la voit. Donc, accusée et suspendue pour dopage depuis octobre dernier, il ne tue pas seulement ma réputation, mais aussi ma carrière. Manuel Tissier, on parle beaucoup de dopage dans le cyclisme, etc. Est-ce qu'on n'en parle pas dans le tennis? On en parle moins dans le tennis?
On en parle moins parce que dans le cyclisme, il y a une prise de conscience très, quasi extrême. Donc, c'est un sport qui est très contrôlé. Comme disait Corinne, le circuit masculin et féminin sont gérés par deux associations, la WTA et l'ATP, qui ont un petit peu la main aussi sur le contrôle antidopage, et qui, même s'il y a aussi des structures nationales et supranationales autour de ça, il y a parfois un petit peu plus de légèreté, de laxisme.
Il y a du soupçon de dopage quand même, plus que du soupçon.
Oui, il y a des affaires de dopage. Sarah Errani aussi, une Italienne, qui avait été prise pour dopage il y a quelques temps.
Ça n'a rien à voir. Là, hier, on a vu d'ailleurs le Français s'absenter 15 minutes pour aller aux toilettes. On se demande bien ce qu'il fait pendant ces 15 minutes aux toilettes.
15 minutes, peut-être.
Ça a duré 10 minutes. Hein,
oui. Parce qu'il y a eu tellement d'excès de sorties comme ça de cour, et notamment la finale Djokovic-Tsitsipas, où Djokovic, mené de 7 à 0, rentre dans le vestiaire et revient, pas combien de temps. Oui, et puis qui retourne la situation, mais ça, c'est autre chose.
Ils
vont se changer. Ils vont aux toilettes. Là, ils ont. Alors, il y a aussi un autre protocole autorisé aujourd'hui à Roland-Garros, c'est le coaching verbal et par les mains. Et donc, vous pouvez avoir votre coach qui vous rejoint dans les vestiaires. Donc, tout ça, ça change. Donc, ne pas non plus soupçonner systématiquement outre mesure, même si effectivement, attention, le dopage existe dans le tennis, Manuel l'a rappelé, et il y a des contrôles qui sont effectués, alors aléatoires sur les premiers tours et beaucoup plus.
Simona Halep, elle n'est pas suspendue pour rien, on se dit. Il y a eu des contrôles.
Oui, c'est son passeport. Alors il y a des soupçons sur son passeport biologique, donc elle doit en répondre. Et donc effectivement, elle est suspendue, c'est pour aussi des raisons. Qui lui ont été expliqués. Hein.
Ouais. Oui, en tout cas, les pauses, c'est pas là qu'on se dope. Hein. Le dopage, ça se fait assez peu sur 10 minutes.
C'est pas une potion magique au milieu du match.
Non, c'est des protocoles en général.
C'est des protocoles qui se font au long cours. Alors, lui aussi d'ailleurs, il avait été un moment soupçonné, je ne veux pas entacher la réputation, du grand Nadal qui est le grand absent de ce tournoi de Roland-Garros. Il est blessé, il a déclaré forfait. Peut-être reviendra-t-il l'année prochaine. En tous les cas, c'est le cœur serré que le champion espagnol a annoncé son forfait à Roland-Garros. Sujet de Maeva Damois et José Boulestex.
L'annonce ne surprend pas, mais elle bouleverse le monde du tennis. Le roi de la terre est abattu. Il ne défendra pas son titre à Roland-Garros, une première depuis 2005.
Je ne pourrai pas être à Roland-Garros après de nombreuses années sans manquer ce rendez-vous. Vous pouvez largement imaginer à quel point c'est difficile pour moi.
Face à sa femme et son entraîneur Carlos Moya, le Mallorquin blessé doit renoncer à son grand chelem de cœur. La porte d'Auteuil, là où tout a commencé, 4 jours après son 19e anniversaire. Le début d'une longue série de victoires sur le court Philippe Châtrier. Au total, jusqu'à aujourd'hui, 14 coupes des mousquetaires soulevées. Le style change, mais l'émotion reste la même. L'Espagnol est chez lui, sur la terre battue française. Et son public lui est acquis. Les fans sont très déçus.
Nelson Montfort, vous aussi, vous êtes déçu. Il manque à Roland-Garros ?
Ah oui, il manque vraiment beaucoup parce que il manque non seulement grâce à la qualité de son tennis, mais également il manque comme personnalité, comme être humain. Moi, c'est un garçon pour lequel j'ai toujours eu énormément d'attachement. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais celui-là, 14 victoires, je ne sais pas comment ni qui pourra le battre. Quant à ce que vous disiez il y a quelques instants, Axel, je pense qu'il viendra l'année prochaine. Non seulement je pense qu'il viendra, mais je pense qu'il a peut-être même toutes les chances de regagner ce tournoi. Parce que aujourd'hui, le fait est qu'il n'y a pas d'immenses favoris. Alcaraz, qu'on considère un peu comme favori, montre quelques signes pas de faiblesse, mais quelques signes peut-être. Il a perdu un set l'autre jour. Djokovic, à mon avis, n'est plus au sommet de ce qu'il était. Je veux dire, voilà, je pense qu'un Nadal en pleine possession de ses moyens aurait pu de nouveau gagner le tournoi cette année. Et il ne s'arrêtera pas là-dessus. Il viendra l'année prochaine. Qui est-ce qui parlait des Jeux Olympiques ? Peut-être Corinne. Il y aura les Jeux Olympiques qui arriveront quelques mois après. Jeux Olympiques en 2-7 gagnants, je crois. Hein, c'est ça, 2-7 oui. Gagnants. Donc ça, pour lui, tout ça, c'est très bien. Et si l'année prochaine, on se voit ici pour célébrer le doublé de Raphaël Nadal, Roland-Garros et Jeux Olympiques. Je pense qu'il en est tout à fait capable.
Ouais, il faut des vedettes comme ça qui incarnent... Non, mais je veux dire, on se souvient du retour. Du coup, ça me faisait penser de Steffi Graf. Hein, qui avait gagné en 1999, non c'était extraordinaire.
Steffi Graf.
Plus de 40 ans, non
monte. Ouais. Oui, oui.
C'est ces grands champions qui vous mettent de l'émotion, alors que. Oui. D'ailleurs, est-ce que c'est pas le problème du tennis féminin, c'est qu'il n'y a pas de grandes championnes comme ça depuis plusieurs années.
Ah ben quand même, il y a eu Serena Williams pendant des années.
Et oui, mais
Maria Sharapova.
Mais c'est la dernière. Non,
mais depuis, c'est effectivement très ouvert. Ben, vous avez une toute jeune numéro 1 mondiale.
Ben, on les connaît pas.
Ah ben Iga Świątek quand même.
Personne ne la connaît.
Ben voilà. Alors elle commence à émerger.
Iga Świątek, si elle marche dans la rue, je pense pas qu'elle crée une émeute.
Je veux dire, Steffi Graf, ou les sœurs Williams étaient bien plus.
Oui, mais c'est le temps. Qui leur donne aussi cette patine.
Elle a à peine 20 ans.
Vous êtes dur là, oui.
Et elle a déjà gagné 2 Roland-Garros. Elle est numéro 1 mondial. Alors, c'est très paradoxal ce que vous dites, parce que Nadal, combien de fois on a dit « Oh, Roland-Garros, c'est bon, ça va être encore pour Nadal ». Maintenant, il n'est pas là et tout le monde le regrette. C'est quand même étonnant. C'est un immense champion. Nelson a raison, mais 14 grands chelems, c'est un truc...
Il avait tué le suspense.
Bah oui, quand il arrivait en pleine possession de ses moyens.
Surtout que sur les 14, terre battue, c'est très les 14 exigeant. Titres, il en a gagné 10 sans perdre un seul set. Ouais. Je sais pas si vous imaginez.
C'est un monstre.
C'est un monstre abîmé quand même, parce que son corps a été mis à très très rude épreuve tout de même, et c'est ce qui me fait moi être un petit peu plus perplexe sur l'avenir de Nadal, c'est que il a mis dans son corps tellement aussi de produits autorisés, sans doute, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain, mais l'année dernière, il a terminé Roland-Garros dans un état catastrophique. Et c'est là où le sport de haut niveau, parfois, joue aussi avec la santé de ses héros, c'est que Rafael Nadal, avec toute la volonté qu'il a, il a été reconstruit, recousu de partout, avec des douleurs perpétuelles. Il faut savoir que les sportifs de haut niveau souffrent en permanence, et ils vont jusqu'au bout de la souffrance. Et l'une des clés de la réussite du sport de haut niveau, c'est la capacité à aller au-delà de la souffrance aussi. Il y a le talent, évidemment, mais il y a cette capacité-là. Quand on fait la liste des blessures de Nadal, c'est presque un guide médical, quoi. C'est impressionnant.
On n'imagine pas la souffrance et la ténacité de ces champions sportifs. C'est vrai que l'autre jour, je voyais Caroline Garcia en conférence de presse. Elle a le bras droit beaucoup plus... musclé que le bras gauche. Hein.
Oui, ben Nadal, il avait le bras gauche beaucoup plus musclé que le bras droit. Oui, évidemment. Et quand on parlait aussi de disposition mentale, alors Nadal l'a dit, il va tout faire pour se remettre sur pied, être prêt pour effectivement terminer 2024 sur les tournois qui lui ont tenu à cœur. Donc on peut penser qu'effectivement, il va préparer tous les grands chelems peut-être juste les grands chelems pour être là, plus les Jeux Olympiques. Je vous rappelle qu'il est champion olympique, lui, déjà.
Personne ne s'en souvient, mais c'est la vérité.
Oui, alors, ouais. c'est vrai que moi, entre autres,
médaille d'or olympique. On voilà. Vu la palmarès, c'est gigantesque.
Et Djokovic n'est pas encore champion olympique. Il est médaillé, mais il n'est pas encore champion olympique. Et Federer a été champion olympique en double. Bref, pour revenir à Roland-Garros...
Mademoiselle Wikipédia, j'adore. J'adore.
pour revenir à Roland-Garros et Nadal... C'est vrai que c'est une disposition mentale énorme. Voyez comment des champions, même qui ont gagné des grands chelems, je pense à Dominique Thiem, qui a été double finaliste à Roland-Garros face à Nadal, est tombé en dépression. Ouais. Lucas Pouille
a raconté ça.
Voilà, a raconté effectivement ce moment-là. Naomi Osaka, rappelez-vous, qui a complètement disparu du circuit, qui s'était enfui presque de Roland-Garros. Donc ça demande une exigence, Axel, vous le rappeliez, énorme.
Et Lucas Pouille, hier, sur C'est à vous, il racontait derrière les paillettes et le lustre, l'envers du décor. Il disait, moi, j'étais ma vie, c'est après la naissance de mon enfant. J'ai dû partir aller faire un petit tournoi minable en Grande-Bretagne. J'étais seul dans ma chambre d'hôtel. Du coup, on boit un peu. Et on tombe en dépression. Hein.
Oui, vous vous en souvenez, on avait parlé d'ailleurs l'année dernière ici de ce qu'est le circuit derrière le strass et les paillettes, derrière le rideau rouge des 100 premiers mondiaux. Il y a derrière ce qu'on appelle les galériens du circuit qui vont de petits tournois, qui changent de fuseau horaire toutes les semaines, qui perdent le lundi à Bangkok et qui se retrouvent le mercredi à Madrid dans la banlieue pour
tout ça pour aller gagner quelques...
pour aller gagner un petit peu d'argent. Alors on dira que c'est aussi un choix de vivre de sa passion, mais c'est aussi difficile. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure aussi hors antenne avec Nelson, que les sites de Paris ont fait que ces gens-là sont aussi harcelés, mais les petits comme les gros sont aussi harcelés par des parieurs qui estiment qu'ils ont volé leur argent en perdant un set, en faisant une faute alors qu'ils n'auraient pas dû en faire. Donc il y a une approche mentale aussi de ce côté-là qui est assez nouvelle et assez délétère.
D'ailleurs, Nelson Montfort, le Roland-Garros a pris des mesures contre le harcèlement que subissent ces joueurs.
Alors, oui. Grâce à une application qui s'appelle Bodyguard, donc qui porte bien son nom, les joueurs, du moins ceux qui y souscrivent, mais je pense que beaucoup y souscrivent, pour être protégés de menaces, hein, parce que oui. nous en sommes arrivés. Est-ce qu'on peut imaginer comment est-ce que nous en sommes arrivés? Alors je ne sais pas si Roland Garros illustre l'état de la société d'aujourd'hui, mais enfin je veux dire que que des tennismans se protègent contre des messages de haine, voire même contre des menaces de mort, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Honnêtement, nous en sommes arrivés là.
Pourquoi sont-ils menacés de mort alors?
Je pense que l'état de la société, oui, mais je pense que ça dépasse ça.
Et puis après, il y a d'autres.
Je pense que l'état de la société aujourd'hui fait que nous sommes rentrés dans une forme de violence qui est incontrôlable. Alors effectivement, ajouté au fait, vous savez qu'au fin fond de l'Asie, on peut parier sur le résultat même d'un seul set, voire même d'un jeu en cours. Du fin fond de la Chine, on peut parier sur Rinderknecht Fritz, voire même d'un match de qualification. Nous, on n'est pas là-dedans. Mais je veux dire, beaucoup de personnes le sont. Et ça engendre des comportements qui sont devenus dramatiques. Il n'y a pas d'autre mot, dramatiques.
Donc les pauvres joueurs, après leur match, leur défaite, en plus, ils se font insulter sur les réseaux sociaux.
Justement, grâce à cette application, Bodyguard, ils ne le sont plus. Mais... Ces menaces existent, sauf qu'elles sont mises à la corbeille.
Allez, on est un peu plus... on revient dans les lustres et les paillettes.
Ouais.
Parce que Roland-Garros, c'est avant tout un tournoi mythique où l'on aime voir les champions et où l'on aime aussi être vu. Alors attention, les tenues des joueurs comme des spectateurs sont auscultées, admirées, copiées. Regardez ce sujet de Margot Subragomez et Giona Messina et regardez bien qui interview Andrei Agassi. C'est à suivre.
À Roland-Garros, il y a les sportifs, les chapeautés, les élégantes, couleur claire ou orange terre battue. Les tournois passent, mais le style reste. Certains joueurs marqueront l'histoire tant pour leur coup de génie que pour leur garde-robe.
Forcément, on parle beaucoup de Rafa, forcément avec ses tenues fluo.
Vavrinka avec son short à carreaux.
Les sœurs Williams avaient toujours des tenues incroyables.
Des tenues qui ont évolué pour améliorer le confort des joueuses, forger la légende des stars de la discipline, avant de se muer en prêt-à-porter pour conquérir la rue. La révolution sur les courts, c'est d'abord à la Française Suzanne Lenglen qu'on la doit. Au tournant des années 20, elle remise au placard les inconfortables corsets pour déployer son jeu en débardeur et jupe plissée. Un corps libéré, des mouvements facilités et des tournois du Grand Chelem maintes fois remportés. Le vêtement de tennis sert aussi d'étendard à certains joueurs pour affirmer leur personnalité. En 1988, un certain André Agassi joue Roland-Garros en short en jean. Séisme sur la planète tennis.
La marque a fait valider ce modèle par les instances internationales qui l'ont accepté. C'est très confortable et moi j'aime ce style.
Même goût de la provoque chez Serena Williams, entre tutu et combinaison intégrale.
Nelson Monfort, réaliste que vous les avez tous interviewés, tous ces géants du tennis. Lequel vous a le plus marqué, surpris? Quel souvenir le plus fort vous reste de ces multiples interviews en anglais qui ont été imitées
Mais jamais égalées.
Et jamais égalées, voilà.
Il y a beaucoup de très bons souvenirs. Un souvenir un peu plus proche de nous, je me souviens quand Marie Pierce a gagné en 2000. Déjà, c'est une Française qui gagne. Je me souviens, Marie, elle est très croyante, comme vous le savez. Et j'étais vraiment juste à côté. Elle a regardé le ciel d'une manière comme une sorte de protection divine. Je pèse mes mots. Ça m'avait beaucoup. D'ailleurs, j'en ai souvent reparlé avec elle. C'est le plus beau moment de sa vie sportive et de loin. Voilà. Je dirais, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai aussi des souvenirs de défaites difficiles. On parlait d'Edberg. Edberg, quand il perd cette finale qu'il aurait dû 100 fois gagner, c'est des moments, oui, des moments partagés que j'essaie de faire partager au plus grand nombre, bien sûr.
Et les émotions après des victoires aussi qui peuvent être très fortes. Devant notre télé, on a parfois des larmes quand on voit la joie des joueurs.
Rafael Nadal s'est établi quand même au fil des ans un contact privilégié. Il m'avait demandé d'animer sa soirée caritative. Et d'ailleurs, j'ai vu la générosité de ce garçon, la générosité, la discrétion. La vraie générosité ne passe pas par le fait de clamer haut et fort. Et justement, Rafa n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que de dire que le tournoi est un peu orphelin de Rafa, c'est la vérité. Et je pense, peut-être qu'avec Manu, je ne sais pas, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, mais il ne s'arrêtera pas là-dessus. Il essaiera de revenir. À la seule nuance, et mais là, Corinne, qui est une statisticienne, c'est qu'il ne sera pas tête de série, à moins qu'il ne soit protégé. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, à la limite, Nadal Djokovic au premier tour. Bon, ça, c'est possible. S'il n'est pas protégé, s'il n'est pas tête de série protégé, mais bon.
Ah ouais, parce que les têtes de série, on veut éviter qu'elles se rencontrent.
Un peu plus tardivement, oui.
Manuel Tissier, sur le public de Roland-Garros qui vient pour voir et qui vient pour être vu, on est souvent frappé de voir que c'est un peu vide tout autour. Au premier rang, notamment sur le central. Alors expliquez-nous les dessous. C'est parce que ce sont des places réservées pour les entreprises et que les entreprises, elles ne sont pas toujours passionnées par le tennis.
C'est parfois ce qui arrive, effectivement. Selon les horaires, il y a ce qu'on appelle les à côté, enfin les
hospitalités.
Les hospitalités, voilà, je cherchais le mot. Et donc, les gens qui sont invités par des entreprises sont en train de déjeuner alors que les matchs ont commencé.
Les fans, on les voit pas, ils sont en haut.
Ils sont en haut,
ils ont payé. Ceux qui regardent eux, ils ont payé, ouais.
Ouais. Et puis, c'est vrai que ça laisse des sièges vides. Amélie Mauresmo, l'année dernière, avait donc la nouvelle directrice du tournoi, enfin, plus nouvelle, mais enfin, qui l'était l'année dernière, avait dit que justement, ils essaieraient d'organiser un turnover sur ces places vides, de permettre à des gens de venir sur les grands cours pour éviter ces sièges vides qui sont, c'est vrai, à l'image, assez déplorables en termes de réputation.
La bonne nouvelle pour nos joueurs, Corinne Boulou, c'est qu'après Roland-Garros, il y a Wimbledon. Mmh. Alors, est-ce que Caroline Garcia va briller à Wimbledon?
On espère pour elle. Après, le numéro 1 français qui est 40e mondial, Hugo Humbert, a plus de chances, par exemple, sur gazon que sur terre battue. Alors pour Caroline, elle sera peut-être libérée forcément d'un poids qu'elle a à Roland-Garros, qu'elle n'aura pas à Londres. Donc effectivement, il faut croire qu'elle puisse y aller et puis retrouver les sommets comme effectivement à la fin de l'année dernière.
Nelson Monfort, votre pronostic pour les vainqueurs de cette édition 2023 de Roland-Garros? J'ai regardé les pronostics des bookmakers, ça vous intéresse?
Alors,
vous n'aimez pas les parieurs, je crois.
En tout cas, je n'aime pas les parieurs qui parient du fin fond de la Chine, ça c'est sûr, ça je ne les aime pas du tout. Le problème, c'est pour répondre à cette question, il faut regarder les tableaux. Alors à gauche, c'est plus fort qu'à droite, n'est-ce pas? Et donc, je pense que si ça va avec le tableau, nous pourrions avoir une demi-finale Nadal Nadal. Alcaraz, Djokovic. Et à droite, nous pourrions avoir Casper Ruud, le Norvégien, qui était en finale l'année dernière, qui est pas loin de remporter un tournoi. En plus, qui est un garçon absolument adorable. Donc, je verrais bien une finale. Enfin, Djokovic, Alcaraz, je suis incapable de donner un résultat contre peut-être Casper Ruud. Sans oublier Tsitsipas, le grec. Voilà, il y a 3-4 joueurs qui... Voilà.
Et chez les filles, c'est Swiatek, hein, la polonaise dont on parlait tout à l'heure, qui est favorite.
Oui, et Sabalenka aussi. Et attention, Rybakina, qui est une Kazakh, qui peut aussi créer la surprise.
Et tout ça, c'est sur les antennes de France Télé. Donc on va se régaler et on attend vos commentaires et vos interviews avisées. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps en plein Roland-Garros pour cette émission. On se retrouve, nous, lundi, pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end sur France Info.